avec les conférences d'aujourd'hui et de demain, nous nous plaçons
directement et complètement au niveau surnaturel, au niveau de la vie divine en nous. Alors forcément, cela change un petit peu la perspective, puisque nous ne cherchons pas directement à démontrer, parfois rapidement, parce que comme vous le savez, nous manquons de temps, mais enfin, nous ne cherchons pas à démontrer chacune de nos affirmations, mais nous cherchons plutôt à mettre en lumière, à faire saisir le contenu des affirmations divines. Les affirmations divines qui se trouvent dans l'Écriture sainte et dans l'Écriture sainte telle que la tradition de l'Église et le magistère de l'Église nous l'ont explicité, nous l'ont fait comprendre au fil des temps. Donc, vous voyez bien, nous changeons de lieu, nous changeons surtout de regard. Et précisément, le regard que nous adoptons, à partir de maintenant, plus directement, c'est le regard de la foi. Et c'est pourquoi nous avons choisi, dans cette première conférence qui se situe directement au niveau donc surnaturel, c'est-à-dire les choses qui descendent de Dieu, et non pas naturelles, les choses qui montent de ce que c'est que l'homme, eh bien, puisque nous nous plaçons au niveau de la foi, nous avons choisi, précisément dans la première conférence, d'essayer de vous redire, de vous réexpliquer, parce que ce sont des choses que vous connaissez depuis le catéchisme, mais de vous redire ce que c'est que la foi. L'expérience montre malheureusement que beaucoup de chrétiens, beaucoup de qui sont généreux, qui sont pieux, et pourtant restent dans une certaine médiocrité, dans une certaine stagnation, tout simplement parce qu'ils ont en eux des instruments, des forces qu'ils ne connaissent pas, et ne les connaissant pas, ils ne savent pas les utiliser. Et ne sachant pas les utiliser, eh bien le développement qui devrait s'en suivre n'a pas lieu. Cela vaut en particulier pour la foi, c'est-à-dire beaucoup d'entre nous, tous d'ailleurs d'une certaine façon, mais enfin à divers degrés, nous ne savons pas vraiment ce que c'est que la foi, et ne sachant pas vraiment ce que c'est que la foi divine, la foi surnaturelle, eh bien nous ne l'exploitons pas, si j'ose dire. Nous n'en tirons pas toute la substantifique moelle, nous n'en vivons pas, alors que l'Écriture sainte, saint Paul, reprenant d'ailleurs un texte de l'Ancien Testament, cite cette parole de Dieu, « Mon juste vit de la foi ». Celui qui est juste aux yeux de Dieu, eh bien, il vit de la foi. Alors, pour cette présentation, si vous voulez, je vous rappellerai d'abord une distinction importante qui est souvent, non pas niée ni méconnue aujourd'hui, mais enfin qui est souvent laissée de côté, malheureusement. Donc, je vous rappellerai la distinction entre la vertu de foi et puis deux autres vertus qui nous relient aussi à Dieu, à savoir l'espérance et la charité. Ensuite, j'essayerai de vous mettre en lumière justement cette nature de la foi, ce que c'est que la foi, surtout en insistant sur ce qu'on appelle l'objet de la foi. Sur quoi porte la foi? Mais non pas en entrant dans tout le détail du catéchisme, mais sur quoi porte la foi présentée d'une façon générale, c'est-à-dire Dieu qui se révèle, la vérité première et les mystères. Et puis, le temps qui nous est imparti avec une largesse généreuse que vous avez soulignée hier soir, le temps nous permettra évidemment d'aborder un sujet supplémentaire, mais extrêmement important, je crois, pour la période actuelle que nous traversons, à savoir la distinction entre la foi surnaturelle et l'obéissance, qui est aussi une vertu importante, très importante même, mais une vertu distincte de la vertu de foi. Et beaucoup de difficultés, soit de difficultés de vie intérieure, soit de difficultés d'attitude dans une situation difficile comme la nôtre, viennent en fait de la confusion dans l'esprit de beaucoup entre la foi et l'obéissance. Donc ce sera un prolongement, j'aurais pu en choisir d'autres, mais c'est celui-ci qui est arrivé. Voilà. Alors donc tout d'abord, la foi fait partie d'un groupe de trois, la foi, l'espérance et la charité. Cette distinction, ce n'est pas une invention tardive des théologiens d'une époque plus ou moins décadente, comme certains ont l'habitude de le dire pour les grands théologiens de l'Église, de l'époque de saint Thomas, de saint Bonaventure et du Moyen-Âge. Cette distinction, vous le savez, se trouve dans saint Paul. Vous avez dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, un long développement de saint Paul qu'on a appelé l'hymne à la charité. Ce passage qui dit « Quand bien même je livrerai mon corps aux flammes, quand bien même j'aurai la foi à soulever les montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. » Et ce passage, cet hymne à la charité, se conclut par cette phrase « Pour l'instant, maintenant, demeurent ces trois choses, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande, c'est la charité. » Donc, en même temps, je vous redis aussi que la plus grande des trois, c'est la charité, mais il y a bien ces trois distinctes, ces trois vertus, et que nous appelons vertus théologales. Théos, vous le savez tous, oui, vous le savez tous, cela veut dire Dieu, et pour ces trois, foi, espérance, charité, on les nomme théologales, d'abord parce que justement elles viennent directement de Dieu, c'est leur sens surnaturel, ce n'est pas nous qui créons en nous ces vertus, c'est Dieu qui nous les infuse, normalement au baptême, c'est dans l'acte du baptême que nous recevons ces vertus. Et puis surtout, ça ne suffit pas, ce n'est pas seulement parce que c'est Dieu qui les met en nous qu'on les appelle théologales, parce qu'il y a d'autres choses que Dieu met en nous et qui ne sont pas des vertus théologales, mais en plus, ces trois vertus nous relient directement à Dieu, établissent un rapport qu'il faut bien appeler immédiat, direct, entre nous, entre chacun de nous, tout au moins si nous sommes justement dans ce qu'on appelle l'état de grâce, eh bien entre chacun de nous, pour autant que nous sommes en état de grâce, c'est-à-dire que soit nous n'ayons pas commis depuis le baptême de péchés graves, soit que, ayant eu le malheur de commettre des péchés graves, nous en avons sincèrement demandé pardon dans le sacrement de pénitence, et obtenu donc ce pardon de Dieu, mais en elle-même, vous voyez, ces trois vertus, lorsque nous les possédons, nous relient, établissent un rapport, mais un rapport intime, pas un rapport entre deux êtres étrangers, un rapport d'intimité. Il y a eu quelques allusions dans des conférences précédentes à cette divinisation du chrétien. Vous voyez, le chrétien est divinisé, c'est-à-dire vit d'une vie proprement divine. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire justement que Dieu a mis en nous la grâce avec ses trois vertus, foi, espérance et charité, sous condition, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous rompions avec le péché mortel, mais elle met en nous ces trois vertus qui nous permettent directement de le connaître et de l'aimer et de le désirer. De le connaître par la foi, de l'aimer par la charité, de le désirer par l'espérance. Alors si vous voyez, par cette présentation que je viens de vous faire, aimé par la charité, désiré par l'espérance, vous vous rendez compte que la charité et l'espérance, dans ces vertus théologales, c'est-à-dire dans ces vertus qui nous mettent en rapport avec Dieu, se situent plutôt du côté de l'affection spirituelle, c'est-à-dire sont enracinées dans notre volonté. Tandis que la foi, à laquelle on associe la connaissance surnaturelle de Dieu, eh bien, elle se trouve dans l'intelligence. Et alors, voilà le point extrêmement important qui va nous introduire dans la deuxième partie, la partie centrale, de préciser justement ce que c'est que la foi par rapport à son objet. La foi en elle-même est dans l'intelligence et non pas ni dans le sentiment, ni dans l'affectivité. Bien que la foi soit dans l'intelligence, en tant que l'intelligence a un lien indissociable avec la volonté. Oui. C'est quelque chose qui peut vous paraître un petit peu subtil, mais vous allez voir tout de suite, la distinction. Il y a des vérités, donc des connaissances qui s'imposent à notre intelligence parce que leur vérité nous apparaît tout de suite. Ce sont les connaissances qui sont les connaissances intellectuelles qui sont liées à notre connaissance sensible et puis celles que l'on peut démontrer pour autant que l'on suit la démonstration. À ce moment-là, celui qui fait une démonstration, il a beau se torturer l'esprit, s'il voit que c'est comme ça, il ne peut pas dire non. La volonté n'intervient pas dans l'adhésion de l'intelligence. Mais il y a d'autres cas où notre intelligence n'atteint la vérité qui est mise devant elle que d'une façon obscure, d'une façon cachée, et justement par l'intermédiaire d'un témoignage. Je dis justement parce qu'on a déjà souligné l'une ou l'autre conférence, je crois celle du père de Binière, que dans la foi était une connaissance à travers un témoignage, le témoignage divin. Et dans ce cas, donc, lorsque la vérité n'apparaît pas par elle-même vis-à-vis des forces de l'intelligence, il faut que la volonté intervienne pour que l'adhésion ait lieu. Et c'est pourquoi la foi surnaturelle, qui adhère aux vérités, mais aux vérités révélées par Dieu, parce que Dieu le dit, donc à cause du témoignage de Dieu, mais non pas parce qu'on a l'évidence que les choses sont ainsi, à cause de cela, donc, la foi ne peut s'exercer qu'en étant mue, en étant mise en mouvement par la volonté. Et c'est pourquoi, je vous ai dit tout à l'heure, la foi est dans l'intelligence, mais en tant que l'intelligence est mise en mouvement par la volonté. C'est pour cela aussi, d'ailleurs, que l'Église nous enseigne que l'acte de foi est libre. L'acte de foi est libre parce que pour poser l'acte de foi, il faut une intervention de la volonté. Et que qui dit intervention de la volonté dit présence de la liberté. Mais notez bien, alors je reviens donc au point sur lequel je voulais insister, notez bien que le fait que la foi ne s'exerce que sous une motion de la volonté n'empêche pas que l'acte de foi est véritablement un acte d'intelligence. D'intelligence donc surnaturelle, d'intelligence surnaturalisée, surélevée par Dieu, qui lui donne justement cette capacité d'adhérer à des connaissances qui dépassent nos forces humaines, mais enfin c'est bien un acte d'intelligence. Alors pourquoi insistais-je tant sur ce premier aspect? Parce que précisément depuis la fin du XIXe siècle, le début du XXe siècle, et cela subsiste encore aujourd'hui, s'est introduit ce mouvement auquel il a été fait allusion, notamment hier, et où la présence de l'historien a permis déjà de rectifier quelques erreurs communément répandues, comme de confondre le modernisme et l'écuménisme, ce sont deux choses différentes, mais donc est apparu ce mouvement que l'on appelle le modernisme, qui, au point de vue philosophique, il y a d'autres aspects dans le modernisme, mais qui, au point de vue philosophique, se rattache à des perspectives extrêmement anti-intellectuelles, donc niant le fait que dans le rapport à Dieu, il y a une véritable place pour l'intelligence, et donc dans ce mouvement-là, donc du modernisme, et puis de ses séquelles, qui ne méritent pas forcément le nom de modernisme, mais qui en ont gardé certains de ses aspects, eh bien, on a ramené la foi qui, selon l'Église, selon l'enseignement de l'Église et de notre Seigneur Jésus-Christ, est une adhésion de l'intelligence à la doctrine révélée, et aux mystères et aux réalités révélées à travers cette doctrine, ont donc ramené la foi à un mouvement aveugle du sentiment. Je vous lis à cet égard, simplement pour vous dire comment les choses étaient présentées donc, à l'époque du modernisme, dans le serment justement que l'on dit contre les erreurs modernistes, donc, qui a été demandé par le pape Saint-Pie X, que tous les évêques, tous les prêtres, tous ceux qui entraient dans une fonction ecclésiastique, tous les professeurs de faculté d'université catholique devaient prêter à partir de 1910. Il y a un certain nombre de points, et parmi lesquels, donc, il y a celui-ci. Cinquièmement, donc, je tiens de façon absolument certaine et je confesse avec sincérité que la foi n'est pas un sens aveugle d'un sens religieux aveugle qui jaillirait des profondeurs du subconscient sous la pression du cœur et par un certain mouvement volontaire, mais est un véritable assentiment de l'intelligence à la vérité reçue de l'extérieur, ex auditu. Ex auditu, le texte le rajoute, puisque saint Paul dit « fides ex auditu ». La foi vient de l'audition, c'est-à-dire, quant à son contenu, je ne peux faire un acte de foi que si le contenu, les vérités de la foi m'ont été prêchées, et d'abord, elles sont prêchées par la parole, pas seulement par l'écrit. Je ne développe pas ce point, c'est une chose intéressante, c'est autre chose, mais la foi ne se transmet pas uniquement par l'écrit, elle est d'abord prêchée. Et cela a un sens profond, parce que, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas exprimer les choses avec toute la profondeur, toute la richesse dans l'écrit, comme on peut le faire dans l'oral. Et précisément, donc, cet acte de foi qui est un assentiment de l'intelligence, comme vous l'avez compris quand je vous ai dit que c'était l'intelligence mue par la volonté, n'est cependant pas coupé de dispositions volontaires. Il faut des dispositions volontaires. Et c'est à cet égard que l'on introduit, là encore, ne croyez pas que ce soit des distinctions décadentes de l'époque scolastique, comme les modernes aiment à dire d'une façon méprisante et qui fait leur propre malheur, mais cela se trouve déjà dans l'Écriture sainte. On a introduit cette distinction entre la foi morte et la foi vive. Saint Jacques dit que la foi sans les œuvres qui découlent de la charité, est morte. Et saint Paul précise dans l'Épître aux Galates que justement, il faut la foi qui opère par la charité. Alors, cela veut dire deux choses. D'abord, que cet aspect absolument nécessaire de notre relation à Dieu, qui se situe dans l'adhésion de notre intelligence aux vérités révélées, cet aspect n'est pas suffisant pour le salut. Quand on dit, vous vous en souvenez peut-être pas, parce que peut-être encore la plupart d'entre vous ont été baptisés enfants, mais si vous avez assisté à des baptêmes, quand les premières paroles au moment du baptême, on demande au parrain, si l'enfant donc est un enfant, n'est pas un adulte, que demandez-vous à l'Église de Dieu ? La foi. Que vous apporte la foi ? La vie éternelle. Quand on dit « la foi nous apporte la vie éternelle », il faut comprendre la foi prise dans son entourage normal, c'est-à-dire avec l'espérance et la charité. C'est la foi que l'on dit vivante. Mais même dans cet entourage normal, donc foi, espérance, charité, comprenez bien qu'on ne peut faire l'économie d'aucun des trois éléments. Et en particulier, donc, la tendance issue du modernisme, cette tendance aboutirait à dire on peut avoir plus ou moins la charité et l'espérance sans avoir la foi. La foi, c'est un petit supplément pour les intellectuels. Ceci, c'est absolument faux. Et comprenez bien qu'une prétendue charité, qui ne serait pas la charité surnaturelle, coupée de la foi, eh bien, n'est justement plus la charité, mais est l'un de ces mouvements aveugles de l'affection ou même de la volonté, mais qui ne nous met plus en relation avec Dieu. Pourquoi ? Parce que dans l'être humain tel que Dieu l'a construit, c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui crée l'âme de chacun d'entre nous, dans l'être humain tel que Dieu l'a construit, il y a un lien indissociable entre l'intelligence et la volonté, de telle sorte que la volonté ne peut jamais, jamais faire d'acte de véritable amour qui ne soit pas éclairé par un acte de connaissance, et un acte de connaissance proportionné. C'est en ce sens-là que s'est répandu l'axiome, vous voyez, on dit « rien n'est aimé qui ne soit connu ». Et voilà l'illusion de beaucoup, et qui est peut-être notre illusion, lorsque nous méprisons un petit peu l'aspect d'approfondissement du contenu de la parole de Dieu, l'illusion, c'est de croire que nous aimons Dieu alors que nous aimons une construction que nous avons faite. Parce qu'il est impossible d'aimer Et c'est vrai à tous les niveaux, même au niveau naturel, même entre un époux et une épouse, par exemple. Sauf que là, il ne s'agira pas de la connaissance surnaturelle. Mais à chaque niveau d'amour, il n'y a pas d'amour sans connaissance. Si donc j'ai une connaissance d'un niveau purement naturel, je ne peux avoir qu'un amour naturel. La connaissance du niveau surnaturel, c'est la connaissance qui me vient par la révélation de Dieu. Si je ne veux pas développer en moi cette connaissance, l'amour que je prétends avoir de Dieu ne peut être qu'un amour naturel, pas forcément d'ailleurs en soi mauvais, mais un amour naturel qui ne m'introduit pas dans l'intimité avec Dieu. Et donc, cette vie intime avec Dieu, elle est fondée sur la foi surnaturelle, bien que pas uniquement sur la foi surnaturelle. Il faut la foi et l'amour. Mais sans la foi, l'amour surnaturel de Dieu n'est pas possible. Alors, dans cette perspective, vous comprenez cette parole de notre Seigneur qui dit dans Saint Jean, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Faites attention, il y a plusieurs passages dans l'Évangile un peu similaires. Parfois, notre Seigneur parle de garder mes commandements, et parfois, notre Seigneur parle de garder ma parole. Et il ne faut pas confondre les deux, parce que dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a ses commandements, mais il y a aussi d'autres choses, à savoir la révélation des mystères divins qui ne sont pas des commandements. Le commandement, c'est pour l'ordre pratique. Et vous voyez, c'est un danger. Il ne faut pas réduire la révélation de Dieu, donc l'objet de la foi, il ne faut pas le réduire uniquement au commandement. Si on réduit la révélation de Dieu au commandement, on déconvertit, on amoindrit la religion révélée en une pure morale. La morale, c'est bien, il faut la mettre en pratique, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, ce n'est pas le plus haut, parce que le plus haut, c'est l'union à Dieu. Et que l'union à Dieu est une vie d'intimité dans la connaissance et dans l'amour. Donc notre Seigneur dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons en lui. Vous voyez, il y a tout cet enchaînement, et nous voyons une première étape qui passe par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, et un amour qui n'est peut-être pas forcément tout de suite l'amour surnaturel, puisque notre Seigneur Jésus-Christ, c'est justement Dieu, mais incarné, et que nous avons donc d'abord une connaissance naturelle de notre Seigneur Jésus-Christ, celle justement que nous avons décrite dans les jours précédents, qui se situe au niveau de l'apologétique. L'apologétique, donc, nous sommes encore au niveau de la raison naturelle, et nous pouvons déjà développer un certain amour naturel de notre Seigneur Jésus-Christ, comme on aime quelqu'un d'éminent, de bien, qui nous paraît formidable, quoi. Mais là, on est encore à ce niveau naturel. Et puis, d'une façon mystérieuse, à un moment, je parle pour un adulte, pour un enfant, ça se passe un petit peu différemment, puisqu'il reçoit tout de suite, par la grâce du baptême, tout l'équipement surnaturel, mais prenons le cas d'un adulte, d'un contemporain de notre Seigneur Jésus-Christ, à un moment, eh bien, où l'âme s'est déjà laissée tourner vers cette connaissance naturelle de notre Seigneur Jésus-Christ et vers cet amour naturel de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, l'âme s'ouvre mystérieusement au travail surnaturel de Dieu en lui. Vous en avez l'affirmation de cette intervention qui vient d'en haut, plusieurs fois dans l'Évangile. Je vous en donne un lieu, un signe caractéristique qui concerne une personne en particulier, mais qui sert de modèle pour tous, c'est vis-à-vis de Saint Pierre, justement, la confession de foi. Là où notre Seigneur demande à ses apôtres, que disent les hommes du Fils de l'homme, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Saint Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et notre Seigneur lui répond, tu es bienheureux, Simon, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont fait connaître, la chair et le sang, c'est-à-dire les forces naturelles, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Découvrir, pouvoir dire que notre Seigneur, non seulement est le Christ, le Messie, mais même le Fils du Dieu vivant, le Fils du Dieu vivant à comprendre dans ce contexte au sens propre, c'est-à-dire partageant, ayant, pas partageant, le mot n'est pas correct, ayant même la même nature que le Père, cela c'est une vérité surnaturelle et qui n'a pu être communiquée que d'en haut. Donc vous voyez, il y a ce passage, passage du naturel au surnaturel qui se fait par l'intervention de Dieu, et ce passage à l'ordre surnaturel, eh bien, inclut tout de suite le fait de garder et de retenir les paroles de notre Seigneur révélées, que notre Seigneur Jésus-Christ nous a fait connaître, nous a révélées, ces paroles qui vont alimenter notre vie intérieure. Mais si nous gardons ces paroles dans un sentiment d'amour, c'est pourquoi on ne doit jamais séparer la foi de la charité, le faire c'est tomber dans le péché mortel, à ce moment-là, eh bien, l'intimité avec Dieu se réalise. Si quelqu'un m'aime, il garde mes paroles, et mon Père l'aimera, et nous viendrons en lui. Et voilà cette divinisation, cette vie intime, qui est le cœur de toute notre vie chrétienne. Alors, je reviens, vous voyez, j'ai voulu vous remettre ici la foi dans son, dans sa synthèse, dans son ensemble, pour que vous ne pensiez pas, parce que c'est un reproche qui est fait parfois, justement, à ceux qui s'efforcent de ne pas oublier l'aspect intellectuel de l'union à Dieu, donc c'est un reproche qui est fait parfois, d'oublier l'aspect volontaire, l'aspect d'amour, donc vous voyez bien que ce n'est pas du tout le cas. Ceci dit, pour tisser, pour établir cette relation d'intimité et d'amour, on ne peut pas, j'espère que vous l'avez compris, on ne peut pas écarter l'aspect des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle un autre texte qui le met bien en lumière, c'est le fameux discours, toujours dans saint Jean, du pain de vie. Notre Seigneur a révélé, après le miracle de la multiplication des pains, a révélé donc qu'il était le pain vivant descendu du ciel, et scandale des scandales, il dit que si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Alors évidemment, ce sont des paroles difficiles à comprendre, et justement, notre Seigneur insiste, dit oui, c'est comme cela. Et à partir de ce moment-là, beaucoup, nous dit l'Évangile, beaucoup de disciples l'ont quitté, en disant ces paroles sont dures, qui peut les entendre? Et vous voyez, il s'agit bien de paroles, d'un enseignement, des phrases qui ont une signification, mais une signification difficile à pénétrer, et même, absolument parlant, impossible à comprendre complètement, mais enfin qui ont une signification, et il y a un refus de cette signification. Et notre Seigneur se tourne vers ses apôtres, et il ne leur dit pas, non, mais attendez, on m'a mal compris, je vais vous dire ça, non, en fait, tout ça, c'est des symboles, il faut comprendre. Non, il leur dit, et vous aussi, voulez-vous me quitter? Et là encore, la réponse... À qui irions-nous? Vous avez les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Vous avez les paroles. C'est très important parce que cela nous indique la dualité, disons, la dualité dans l'unité, mais la dualité de l'objet de la foi. Je vous ai dit que je voulais vous parler de l'objet de la foi. Eh bien, je vous en ai parlé un petit peu et je vous en parle encore un peu plus maintenant. Il y a cette dualité dans l'objet de la foi. À quoi nous croyons? Nous croyons aux réalités surnaturelles elles-mêmes, c'est-à-dire en fait à Dieu dans son mystère, c'est-à-dire tout simplement à la Sainte Trinité et au mystère de l'incarnation rédemptrice. Il y a d'autres mystères, mais qui s'enchaînent, comme les sacrements, la Sainte Eucharistie, l'Église, mais fondamentalement, vous voyez, tout se rattache à ce double mystère, la très sainte Trinité et l'incarnation rédemptrice. Donc, il est bien vrai que l'incarnation rédemptrice, c'est la seconde personne divine faite homme, et la Sainte Trinité, ce sont les trois personnes qui sont un seul Dieu. Donc, il est bien vrai, une expression moderne, très répandue, est parfaitement vraie, parfaitement exacte, à savoir que par la foi, nous nous attachons à une personne. Une personne, si on regarde directement notre Seigneur Jésus-Christ, Verbe incarné, ou bien sûr les trois personnes divines, mais à une réalité personnelle. Donc cette affirmation est tout à fait vraie. Mais elle devient fausse si on oublie l'autre élément, à savoir que par la foi, nous nous attachons à une personne ou aux trois personnes divines, mais cet attachement par la foi ne peut pas se faire, ne peut pas avoir lieu si on prétend laisser de côté les paroles, c'est-à-dire les formules, les phrases, les affirmations en langage humain qui nous font connaître justement cette personne, ces personnes divines qui sont un seul Dieu. Et cela, j'y insiste, parce que dans le prolongement de l'erreur moderniste dont je vous parlais tout à l'heure, l'erreur moderniste qui, au point de départ, telle qu'elle a été, pour ainsi dire, ciblée et cernée par le pape Saint-Pie X, consistait à ramener le lien avec Dieu à ce sentiment donc de l'ordre purement affectif, même s'il est un petit peu de l'affectif volontaire, surtout de l'affectif sentimental, sensible, et même de l'affectif volontaire, mais en laissant complètement de côté l'aspect intellectuel. Mais on a, disons, comme il arrive souvent dans les hérésies, on a amélioré l'affaire, c'est-à-dire en faisant quelque chose de moins choquant, pour donner l'impression de ne pas écarter ce que l'Église affirme, évidemment, l'aspect intellectuel. On a dit, oui, bien sûr, il y a la foi qui... Mais la foi s'attache à une personne et non pas à des propositions, à des doctrines. Et c'est dans le « et non pas », voyez, que s'est introduit la forme renouvelée, en fait. On peut appeler ça du néo-modernisme, celui qui, celui par rapport auquel, selon le jugement de Maritain dans les années 60, le premier modernisme n'était qu'un modeste rhume des foins. Vous voyez, ça a été son expression dans le livre « Le paysan de la Garonne ». Eh bien, ce néo-modernisme, voyez, est plus subtil parce qu'il donne l'impression de retenir les choses en disant « Oui, par la foi, nous nous attachons à la personne de notre Seigneur, et c'est très vrai. Seulement, en le disant, voilà, on pourrait dire le cheval de Troie dans la cité de Dieu, pour reprendre le titre d'un livre qui d'ailleurs lui-même faisait la pratique en même temps que la théorie, mais bon, c'est une autre question. Donc, en disant cela et en ajoutant explicitement, pour ceux qui sont moins subtils, ou implicitement pour ceux qui sont plus malins, ah, on s'attache à la personne, mais non pas aux doctrines, en fait, on empêche l'exercice de la foi. Pourquoi ? Parce que, justement, nous sommes des êtres humains, et nous ne pouvons donc faire fonctionner notre intelligence humaine que à travers des formulations existant en langage humain. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que notre Seigneur a parlé, que le bon Dieu a révélé des choses qui tiennent quand même de nombreuses pages dans des livres et a inventé le magistère de l'Église qui vient justement nous expliciter, nous faire comprendre le contenu et le sens des doctrines. Et je ne veux pas illustrer ces choses par quantité de textes, ce serait facile à en trouver. Je vous en prends un qui est tout à fait récent, non pas, je vais vous dire le contraire dans quelques instants, que dans ce domaine, le plus récent soit forcément le meilleur, mais ça fait toujours chaud au cœur, car il faut aussi compter avec l'aspect du sentiment. La religion n'enlève pas, n'écarte pas le sentiment, mais le veut à sa place. Donc ça fait toujours chaud au cœur de voir que l'autorité suprême redit aujourd'hui les choses que l'on a dit hier et que l'on s'est efforcé de dire et de redire quand d'autres ne le disaient plus. Cette nécessité donc de l'aspect formulé dans des concepts pour que puisse s'exercer la foi, je la trouve dans un texte qui, au point de vue magistériel, n'a pas de force particulière. C'est un sermon, un discours de Benoît XVI, donc prononcé le 18 juin 2006 au sanctuaire de Częstochowa. Donc vous voyez, c'est pas très ancien. C'est un discours donc qui, entre autres, traite de la place de la foi dans l'action quotidienne, et qui parle de la foi, donc il affirme d'abord que la foi est un don reçu donc au baptême, qui rend possible notre rencontre avec Dieu. Donc voyez cet aspect, la foi va nous mettre en lien avec la réalité, avec les personnes, soit les trois personnes de la Trinité, soit la personne divine incarnée, voyez. Mais il ajoute, après avoir précisé que donc il y a là, dans cet objet réel de la foi, un mystère, et donc il ne faut pas avoir la prétention de le comprendre. Comprendre, ça veut dire pénétrer complètement. Ça voudrait dire que nous prétendons avoir l'évidence du mystère de la Trinité. Il est bien évident que même avec la foi, c'est absolument impossible. C'est seulement dans la vision béatifique. Et encore, même dans la vision béatifique, nous ne connaîtrons pas Dieu autant que Dieu se connaît lui-même. Donc le mot comprendre, évidemment, tout à fait à écarter. Mais ayant dit cela, donc Benoît XVI ajoute, mais avec la foi, nous pouvons, vous notez la formule, elle est belle, nous pouvons ouvrir une voie à travers nos concepts, même les concepts théologiques, et nous pouvons toucher le Dieu vivant. Et Dieu, une fois touché, nous donne immédiatement sa force. Vous voyez, c'est en une phrase, ici, vous voyez, le pape Benoît XVI nous dit tout ce que je veux vous communiquer. Il faut, la foi est bien faite pour nous conduire, étant d'ailleurs supposé, comme je vous l'ai redit, la charité et l'espérance, mais bien faire pour nous conduire dans cette intimité avec le Dieu vivant, mais nous ne pouvons pas faire l'économie de l'expression conceptuelle. Et c'est à l'intérieur de cette expression conceptuelle que s'ouvre pour nous la voie qui fait que nous pouvons toucher, voyez, réaliser cette réalité théologale de la foi comme vertu théologale. Et alors, lorsque l'on saisit cela, voyez, on comprend, c'est le dernier point que je vous dirai pour cet intérieur de la foi, et ensuite je vous dirai un petit mot sur la foi et l'obéissance. Lorsque l'on a compris cela, on comprend que c'est une grave erreur, non pas moins grave parce qu'elle est plus répandue, mais d'autant plus grave qu'elle est plus répandue, que la tendance qui consiste à faire deux zones, une zone qu'on appellerait de l'instruction doctrinale et une autre zone de la vie spirituelle. Certes, il y a des modalités diverses. Donc en ce sens-là, lorsque l'on fait de l'instruction doctrinale, comme nous le faisons un peu dans ces conférences, et un peu plus si nous avions plus de temps, eh bien, lorsque l'on fait de l'instruction doctrinale, il y a un aspect systématique, il y a un aspect systématique, on essaye d'enchaîner, de mettre un ordre, et puis il faut avancer. Il y a un programme à suivre, et donc, cela peut introduire un certain aspect scolaire. Mais, ces vérités que l'on détaille, que l'on essaye donc de faire pénétrer sous leur mode conceptuel dans notre esprit, ces vérités, ce sont les mêmes vérités que nous mettons dans notre esprit au moment où nous nous mettons en présence de Dieu, au moment où nous nous agenouillons devant le Saint-Sacrement, au moment où nous entrons dans la prière, au moment où nous nous mettons à méditer. La différence, c'est que souvent, lorsque nous nous mettons devant le Saint-Sacrement, ou lorsque nous entrons dans la prière, ou lorsque nous nous mettons à méditer, eh bien on se contente, par exemple, d'une seule petite phrase, et puis là, le Saint-Esprit nous tombe dessus, et on trouve si beau cette petite phrase, qu'on n'a plus envie d'en bouger. Alors, comme dit saint Ignace, dans les exercices, si le Saint-Esprit vous arrête sur un point, il ne faut pas vous dire « le prédicateur m'a donné 10 points de méditation, donc il faut absolument que j'enchaîne ». Ça, c'est quand on révise les examens. Mais c'est bien vrai qu'au moment d'établir cette relation avec le bon Dieu, on arrête là où il nous arrête. Mais il n'empêche qu'on entre dans ce contact actuel avec le bon Dieu, avec exactement les mêmes vérités, et ces vérités qui ont le même contenu que celui que l'on s'est efforcé d'analyser dans notre instruction doctrinale. Et en ce sens-là, vous voyez, il y a une imbrication absolument interne et intrinsèque entre la vie spirituelle et la formation, le travail doctrinal. Et d'ailleurs, à l'inverse, même dans la formation doctrinale, vous voyez, on la recevra beaucoup mieux en tant qu'elle est vraiment théologie si on aborde même le cours dans un esprit de charité, d'amour de Dieu. Celui qui aime Dieu veut le connaître, a le désir de le connaître. et le vouloir et le désir de connaître ne donnent pas la connaissance, mais ouvrent l'esprit à recevoir la connaissance. C'est bien connu dans n'importe quelle autre matière, ça vaut ici. Et c'est à cet égard qu'il ne faut pas confondre, vous voyez, nous insistons beaucoup sur cette formation intellectuelle et doctrinale que nous essayons de faire à notre niveau rigoureuse, vraie, fondée, mais il ne faut pas confondre cela avec l'érudition universitaire. Quelqu'un peut très bien avoir une érudition universitaire très supérieure à la nôtre, par exemple, même dans la connaissance de l'œuvre de saint Thomas, où quelqu'un peut connaître, bien connaître tout le dictionnaire de théologie catholique, ce qui fait quand même plusieurs milliers de pages, mais le connaître de façon universitaire, sans précisément que cela, sans que cela soit en lui l'un des éléments de la relation vivante avec Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il n'aime pas Dieu et que cela ne soucie pas. Donc ce n'est pas du tout notre perspective. Mais il n'empêche que si nous aimons Dieu, nous voulons développer en nous cette base, l'aspect intellectuel de la base de notre relation à Dieu. Voilà. Donc ceci, ce sont quelques éléments de la vertu de foi dans son objet, dans son lien avec la charité et l'espérance, et comme fondement de la relation de notre déification, de notre vie intime avec Dieu. Et maintenant, donc, pour compléter cette présentation, puisqu'il me reste du temps, je vais vous dire quelques mots sur la différenciation, justement, entre la foi et l'obéissance. Vous voyez, l'idée de départ est facile. Nous avons insisté pour dire que la foi se situe donc en elle-même dans l'intelligence, c'est une adhésion à des vérités, tandis que l'obéissance, certes l'obéissance ne doit pas être aveugle, etc., mais l'obéissance c'est une attitude de la volonté. L'obéissance c'est la disposition, et disposition évidemment qui passe à l'acte, mais c'est la disposition de ma volonté de mettre en œuvre les préceptes du chef légitime agissant dans son domaine légitime. Bon, je ne me détaille pas, ce n'est pas un traité sur l'obéissance, mais il faut bien voir que l'obéissance, c'est cette disposition de la volonté, et donc vis-à-vis du chef légitime dans son domaine légitime. Alors cela a une grande importance, là, ne transformez pas caricaturalement ce que je vais vous dire, mais il y a quand même cela, de soi, pour faire un acte d'obéissance et même de bonne obéissance, il n'y a pas du tout besoin de comprendre pourquoi le chef me demande cela. Et même, comme je pense vous le savez, ce serait tout à fait une attitude justement de désobéissance que de dire « je ne comprends pas la raison de l'ordre de mon chef, donc je n'obéis pas ». Ce n'est pas la même chose que de dire « si je vois que l'ordre est un péché, je ne dois pas obéir », ça c'est autre chose. Mais dans toute la vie de rapport de subordonné à chef, il y a de multitudes circonstances où, pour des raisons très légitimes, le chef ne peut pas et n'a pas à expliquer pourquoi il donne tel ordre en particulier. Et ça n'empêche pas du tout la bonne obéissance qui est cette attitude, voyez, cette bonne disposition de la volonté qui fait que on sait que c'est lui qui est chargé de la traduction pratique de la marche commune vers le bien commun, et donc il me commande d'être ici, je suis ici, voilà. Et alors, à cause de cette perspective, vous voyez qu'il n'y a pas, à l'intérieur immédiate de l'attitude d'obéissance, il n'y a pas du tout cette perspective de saisie intellectuelle. Alors ceux qui confondent, en passant, là, ce que je vous ai dit d'obéissance vaut à n'importe quel niveau, pour n'importe quel type d'obéissance, pourvu que ce soit vis-à-vis d'un chef légitime, dans son domaine légitime. Mais ceux qui transforment la foi, l'acte de foi, en un acte d'obéissance à Dieu, eh bien, par le fait même, spontanément, ont cette tendance de dire, au fond, peu importe le contenu des vérités de foi, tout ce qui importe, voyez, c'est que je me soumette au commandement divin. Les vérités de foi, puisqu'on s'est mis dans une perspective d'obéissance, se transforment en commandement divin, donc purement, vous voyez, des directives pratiques, Et au fond, peu importe le contenu, tout ce qu'il faut, c'est que je me comporte correctement. Et la conséquence en est que tout l'aspect qui est le cœur de la foi nous dispose, voyez, à cette vie de méditation et même de contemplation, voyez, cette vie intérieure où on fait pénétrer en nous, c'est Dieu qui le fait pénétrer en nous, mais par l'intermédiaire des vérités de foi, eh bien, son intimité divine, tout cet aspect est, pour ainsi dire, écarté, éliminé, et la foi ne consiste plus qu'en une pratique morale. Donc toute la vie chrétienne en tant qu'elle est vie de contemplation, vie d'intimité dans notre cœur avec le bon Dieu, disparaît. Et le deuxième danger, et qui a été évidemment très, très fort donc dans toute la période, qui n'est pas finie bien entendu, bien qu'elle ait pris de nouvelles colorations, il ne faut pas être complètement pessimiste. Il ne faut pas non plus tomber dans un pessimisme, dans un optimisme qui se fermerait les yeux. Mais cette attitude a de grandes conséquences dans ce qu'on a appelé la crise de l'Église, parce que lorsque l'on confond, alors cette fois au niveau de la vie de l'Église, lorsque l'on confond la foi et l'obéissance, si on n'est pas pieux, je veux dire une chose qui est fausse, mais vous me comprendrez, par rapport à ce que je suis en train de dire, si l'on n'est pas pieux, ce n'est pas très grave, parce que, en plus, on ne donne aucune importance à l'obéissance, donc les problèmes au niveau de la foi ne pénètrent pas davantage. Mais pour quelqu'un qui est vraiment pieux, si au niveau de l'ordre disciplinaire, s'introduit certaines directives qui sont, disons, moins bonnes ou qui peuvent avoir des effets mauvais, si on les comprend toutes, si on comprend, voyez, la foi et l'obéissance comme la même chose, on leur donne une force, une absoluité qui sont les mêmes que la force et l'absoluité que l'on doit donner au contenu de la foi. Et c'est ainsi que beaucoup dans... Je vous parle de ce qui s'est passé à partir des années 60, si vous voulez, dans le vie de l'Église. Beaucoup de personnes qui, pour ainsi dire, sentaient bien qu'il y avait, dans un certain nombre de directives, de choses qui étaient en train de se passer dans l'Église, des éléments qui n'allaient pas, mais qui, mettant tous les aspects disciplinaires et d'obéissance dans l'Église au même niveau d'absoluité que celui de la foi, eh bien, disaient, il n'y a qu'à obéir, il n'y a pas à regarder le contenu. Est-ce qu'il y a une certaine dérive avec le contenu absolu de la foi ou bien non? Nous n'avons pas à regarder ça. La foi est une obéissance. L'obéissance n'a pas besoin de pénétrer dans le pourquoi et le comment de l'ordre. Donc, nous suivons. Et c'est comme cela, malheureusement, vous voyez, que beaucoup de personnes qui auraient été tout près, qui étaient vraiment pieuses, vraiment généreuses, mais n'ont pas eu toute la... n'ont pas manifesté à l'extérieur, vous voyez, toute la résistance qu'ils auraient pu manifester aux déviations qui se sont introduites par cette confusion qui avait été beaucoup, déjà d'avant, qui avait beaucoup pénétré dans l'esprit de plusieurs, entre la foi et l'obéissance. Autrement dit, ils se sont rendus incapables d'appliquer l'avertissement de saint Paul qui dit dans son épître aux Galates, parce que déjà à son époque, il y avait des prédicateurs qui parfois passaient derrière lui, et lui qui, en tant qu'apôtre, avait un enseignement infaillible et qui venait enseigner d'autres choses. Et saint Paul, pour bien faire voir qu'une fois qu'une vérité a été révélée et explicitée dans la lumière divine, elle prend une valeur absolue. Plus personne ne peut revenir en arrière. Une discipline, on peut la changer. Dans une certaine mesure, parce que la discipline, pour une part, est liée à des circonstances. Mais une vérité de foi, non. Et saint Paul dit aux Galates, c'est chapitre 1, verset 8, par là, « Si quelqu'un d'autre, fût-ce moi-même, saint Paul parlant, fût-ce moi-même, fût-ce un ange venu du ciel, vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. » Avertissant bien qu'au niveau de la foi, il y a un discernement que chaque fidèle doit opérer. Et donc, il ne faut pas mettre tout sur le même pied, la foi et l'obéissance. Et alors là, je conclurai là-dessus, il y a encore une subtilité. Comment en est-on venu à faire ce transfert, cette confusion entre la foi et l'obéissance? C'est que effectivement, il y a plusieurs passages déjà dans l'Écriture sainte et dans l'enseignement de l'Église partout où on parle d'obéissance à propos de la foi. On parle d'obéissance de la foi ou de mots similaires. Par exemple, saint Paul dans l'épître aux Romains dit que dans l'épître aux Corinthiens, pardon, la deuxième épître aux Corinthiens dit qu'il veut réduire en captivité toute intelligence en obéissance au Christ. Il y a cet aspect d'obéissance dans l'intelligence. Dans l'épître aux Romains chapitre 1, saint Paul parle encore de l'obéissance de la foi qui a été répandue dans toutes les nations. Et donc, à partir de là, il était très facile de confondre obéissance, la vertu morale d'obéissance, et la vertu théologale de foi. Alors, qu'en est-il? L'explication catholique, bien sûr, est très connue. Là encore, je vous donne un texte ici c'est un texte de Jean-Paul II, ce n'est pas non plus un texte magistériel, c'est une audience générale, mais enfin c'est un discours donc autorisé du 3 avril 1985, et donc c'est une série d'audiences sur la révélation divine justement. Jean-Paul II parle de l'abandon à Dieu qui s'exprime de la part de l'homme par l'obéissance de la foi. Et il ajoute, la foi est obéissance de la raison et de la volonté à Dieu qui révèle. Cette obéissance consiste avant tout dans l'acceptation comme vérité de ce que Dieu a révélé. Vous voyez, dans le cas de la foi, l'obéissance consiste dans l'adhésion à ce que Dieu a révélé comme vérité. Autrement dit, le mot obéissance est employé en un sens. J'espère qu'il sera compréhensible au moins autant que la puissance, en un sens que l'on dit analogique, c'est un mot pour dire que le même mot a des significations un petit peu différentes, quand on dit analogique, voire même très différentes, mais qui ont un certain rapport. Et bien donc, le mot obéissance, quand on en parle au niveau de la foi, veut dire qu'effectivement, il y a ce rapport de soumission à Dieu. Mais dans le cas de la foi, la soumission ne consiste pas à exécuter une directive pratique, la soumission consiste précisément à faire l'acte d'intelligence, d'adhésion à une vérité dont on s'efforce de comprendre le sens. Et alors à ce moment-là, évidemment, la notion d'obéissance de la foi nous laisse pleinement à l'intérieur de cet enseignement que j'ai essayé donc de vous faire un petit peu pénétrer, à savoir que dans notre relation d'intimité avec Dieu, il y a une composante d'intelligence surnaturelle, et c'est précisément en cela que consiste la foi. Eh bien, maintenant il ne me reste qu'à vous inviter, sauf si par hasard il y avait quelques questions, mais autrement il me reste donc qu'à vous inviter à l'expérimenter, à mettre en pratique, eh bien tout à l'heure au cours de la Sainte Messe, c'est-à-dire comme certainement vous le faites d'habitude, mais peut-être encore plus profondément, à vous avancer vers le mystère de la messe lorsque vous y êtes, en vous rappelant l'une ou l'autre des grandes vérités qui nous disent en quoi consiste le saint sacrifice de la messe. Et par exemple, puisque c'est l'un des points tout à fait essentiels dans cette question de l'importance de maintenir le rite traditionnel, celui qui est décrit dans les livres liturgiques de 1962, donc cette question de l'offertoire, et bien de vous rappeler, de comprendre que toutes les prières de l'offertoire ont pour signification, pour sens, de nous faire comprendre que le saint sacrifice de la messe a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour mettre, pour ainsi dire, à notre disposition, maintenant, ici, maintenant, son sacrifice de la croix, mais qu'il veut mettre à notre disposition son sacrifice de la croix, parce qu'il faut que chacun d'entre nous, nous unissions notre propre sacrifice au sien. Et le sens de l'offertoire, c'est justement d'indiquer, parce que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ sont rendus présents à partir de ces choses humaines que sont le pain et le vin, eh bien il faut que de la même façon, nos propres sacrifices, voyez, soient pour ainsi dire, là le mot est analogique, mais soient pour ainsi dire transsubstantiés, voyez, rendus tout unis au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien voilà une pensée que vous pouvez avoir en pénétrant tout à l'heure dans le Saint Sacrifice de la Messe et qui sera pour ainsi dire, voyez, une mise en pratique comment la vie spirituelle, la vie intérieure, la vie de prière doit toujours s'établir à chaque instant sur l'une ou l'autre des vérités de la foi.